Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus bloß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und femme. Und femme, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et oui, comme tous les mercredis, on se retrouve dans Remue Ménage. Et aujourd'hui, eh bien, comme je vous en avais parlé, toute notre émission en rencontre avec la Compagnie du Revoir, qui présente un spectacle à Genève en ce moment au Théâtre de Saint-Gervais, Tableau d'une exécution, texte par Howard Baker. Et la Compagnie du Revoir, c'est avant tout Francis Cacal et Anne Bizan. Francis Cacal dans le rôle de Galaxia, Anne Bizan à la mise en scène, qui sont les deux permanentes de la Compagnie du Revoir, mais avec une distribution magnifique aussi. C'est Frédéric Lindenberg, Christian Scheidt, Edmond Vuillou, Nathalie Quenet, Laure Viamo, Vincent Aubert, Barbara Baker, Christophe Nicolas, et une équipe très féminine pour permettre la réalisation du spectacle. Au décor, Sylvia Faleni, qui a fait aussi les peintures des décors. À la lumière, Liliane Tondelier, costume, aussi par une femme, Fabienne Gaujon. Les maquillages, c'est une femme aussi. Le chant, Christine Chalère. La musique est écrite par un homme, c'est Michel Vinch. Et vous retrouverez des extraits du spectacle, donc de la musique de Michel Vinch, tout au long de notre interview. Donc tout ça dans quelques instants, en compagnie, en particulier avec nous en direct, de Anne Bizang et Francis Cacal. Alors, comme je vous l'ai annoncé la semaine passée, nous avons aujourd'hui dans notre studio Anne Bizan et Francis Cacal, qui sont les protagonistes très importantes de Tableau d'une exécution. C'est le spectacle que vous pouvez voir en ce moment au Théâtre de Saint-Gervais, et ceci jusqu'au 27 janvier prochain. Alors, je vous avais dit le coup de cœur énorme que j'avais eu pour ce spectacle en tout début d'année, et j'ai envie de le transmettre tout de suite à Anne et Francisca. S'asseoir sur un fauteuil de théâtre et recevoir un coup d'air frais comme celui que vous nous avez offert ce début du mois de janvier pour nous donner l'énergie de recommencer l'année, je dois avouer que c'est incroyable. Parce que venir au théâtre et avoir devant soi tout à coup une femme magnifique qui ose aller jusqu'au bout de ce qu'elle est, avec tous les risques que ça comporte, on ne le cachera pas, et avec un texte qui, à chaque ligne, nous donne une énergie et en même temps nous donne envie de rire sur la société et le monde qui nous entoure, eh bien, je dois dire que si peut-être on avait des doutes quand on disait à ses copains et copines « je ne vois pas ce que je te souhaiterais de bon pour le début de l'année », eh bien, en tout cas, là, on se dit « mais il y a encore de l'espoir dans l'air ». Et rien que pour ça, en tout cas, j'ai envie de vous dire merci beaucoup pour le spectacle que vous nous avez offert et je crois que ça nous donne un sacré pep pour la suite de l'année. Alors, nous allons un peu discuter de ce spectacle, de ce personnage féminin magnifique qui est au cœur de la pièce de Howard Baker, cet auteur anglais qui a choisi la Compagnie du Revoir pour ce sixième spectacle, c'est ça ?
Oui, c'est le sixième production de la compagnie du Revoir. C'est le deuxième texte en fait que nous montons, puisque jusqu'alors on avait commencé par des créations maison, je dirais, où on était beaucoup parti du silence. Et puis depuis la saison 94-95, on a abordé en fait des vraies œuvres de théâtre contemporaines toujours, parce que ça c'est une ligne à laquelle on tient, c'est de faire découvrir la pensée finalement contemporaine à travers le théâtre, par des auteurs qui ne sont pas forcément encore très, très connus du public roman, je ne vois. C'est le cas avec Howard Barker, donc.
On n'est pas bête, Barker, exact.
Qui est un auteur très connu dans son pays, donc en Grande-Bretagne, qui a une œuvre derrière lui gigantesque. Il a écrit plus d'une trentaine de pièces. Il a écrit des essais sur le théâtre. Il a écrit des poèmes, des scénarios de films et de télévision. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir de faire un travail comme ça. De faire connaître un auteur inconnu et surtout celui-ci, en l'occurrence.
Alors, la compagnie du Revoir, en tout cas pour ce qui nous concerne et me concerne, on la connaît depuis longtemps. On avait découvert le tout premier spectacle qui était WC Dame. Je n'ai pas réussi à replacer dans le temps quand était WC Dame. C'est il y a très longtemps ou il n'y a pas très longtemps?
Il y a 9 ans. Très précisément, 9 ans à la même époque.
Non, c'est vrai, c'est
vrai. Oui, absolument, c'était en janvier 87.
Ah, c'est incroyable. Donc c'était aussi au début où je faisais de la radio. Eh bien, depuis WC Dame jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de découvrir presque tous les spectacles de la compagnie du Revoir. Je dois avouer moi-même que je n'ai pas vu Goutte dans l'océan, le texte de Fassbinder, qui était donc le dernier spectacle avant celui-là, que j'ai vu tous les autres, et que... Il y a quelque chose qui est typique de la compagnie du Revoir dans tout votre parcours. Il y a un choix de travail. Anne, tu viens d'en donner quelques esquisses. J'aimerais bien que tu approfondisses un petit peu ça et Francisca aussi, parce que vous êtes les deux finalement qui restaient les permanentes, parce qu'on a vu des comédiennes différentes. Au début, vous nous racontiez que l'idée était peut-être d'échanger les rôles parfois, que certaines s'échangent à la mise en scène, etc. Aujourd'hui, il ne reste que Francisca Kahle et Anne Bizang. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est des choix? Est-ce que c'est les histoires de la vie qui ont fait que la compagnie aujourd'hui, c'est ce qui reste le pilier et la permanence, c'est Francisca Kahle et Anne Bizang.
Oui, il y a eu bien sûr une évolution parce qu'effectivement, ça fait bientôt 10 ans que la compagnie du Revoir a été créée. Donc c'est effectivement quand même une durée qui permet beaucoup d'aventures différentes. Et il y a eu un moment où le groupe de départ, nous étions donc 4, s'est scindé. Un moment caractéristique puisque on abordait une création qui s'appelait donc Les femmes et les enfants d'abord et où finalement Francisca et moi-même avions envie de préciser un peu notre engagement politique au sens large, hein, évidemment, c'est-à-dire de préciser le lien que l'on cherche à créer entre notre activité artistique et le public. Cela, notamment au travers de la représentation des femmes. Et c'est vrai que lorsqu'on en a parlé dans le groupe d'alors, eh bien, il y a eu des débats où on s'est rendu compte qu'au fond, on n'était plus tout à fait sur la même ligne. On n'avait pas forcément envie de faire les mêmes choses. Et voilà, alors c'est vrai qu'il y a eu un moment décisif à ce moment-là où... C'est vrai, le choix du théâtre contemporain s'est précisé, le choix d'aller aussi vers des textes qui étaient peu connus et qui traitaient aussi de sujets le plus possible en lien avec l'actualité ou avec l'esprit du temps. C'est un peu une généralité et puis c'est clair que je pense peu de gens de théâtre qui diront qu'ils veulent faire du spectacle qui ne parle pas d'actualité, mais... C'est vrai la pièce de Fassbinder traitait d'exclusion. La pièce ici de Barker, elle parle donc des relations entre l'artiste et le pouvoir, mais elle parle aussi beaucoup de fidélité à ses idées, de la trahison,
la guerre.
Vous aviez déjà appris
pour les femmes et les enfants d'abord.
Donc, oui, c'est un peu dans ce sens qu'on va, quoi.
Et au niveau du travail de la compagnie, parce que si je me souviens bien aussi au début, vous faisiez plus des mises en scène dites collectives, tout le monde participait, le rôle de la personne qui assurait la mise en scène était moins forcément prédominant, enfin, ou clarifié comme étant un rôle particulier. Il y a eu beaucoup de créations collectives, donc vous ne partiez pas de textes, vous avez vous-même créé certains textes.
C'est-à-dire qu'il faut quand même remettre un peu les choses en place. On partait des créations collectives, c'est-à-dire qu'on n'était pas quatre à faire de la mise en scène, c'était quand même Anne qui faisait la mise en scène. Mais nous alimentions le thème par des improvisations, par des réflexions, par l'apport de textes, de lectures, de choses différentes comme ça, et par simplement une implication quotidienne dans la vie. Hein, c'est quand même ça aussi, un artiste, c'est quelqu'un qui mange la vie, quoi, voilà. qui va, qui regarde, qui s'implique, qui s'engage, qui dit oui, qui dit non, c'est tout ça. Et Anne a toujours été la personne qui gérait tout ça, c'est-à-dire qui mettait en forme, qui écrivait le spectacle avec nous, en tant que matériau humain. Et ce qu'il y a toujours de magnifique, et ce qu'on veut garder dans la compagnie du revoir aussi, c'est l'acteur est au cœur des choses. C'est-à-dire qu'on part du corps de l'acteur, de la voix de l'acteur, et à travers ça, on développe. C'est-à-dire que l'acteur n'est pas un prétexte, c'est le cœur. Et bon, dans le spectacle qu'on vient de faire maintenant, ce qui est absolument magnifique, hein, et ce qu'on ne sait pas au départ quand on commence, quand on engage les répétitions, c'est qu'ici tout est complet. C'est-à-dire que c'est vraiment un spectacle de femmes. La scénographie, c'est une femme. Les lumières, c'est une femme. La mise en scène, c'est une femme.
Les costumes.
Les costumes, c'est une femme. Le premier rôle, c'est une femme.
Mais pourtant, il y a des hommes. Alors qu'au début de la compagnie du revoir, il n'y avait pas d'hommes.
Oui.
Alors,
oui.
Est-ce qu'il y a eu un changement à ce niveau-là aussi, ou bien est-ce que c'est simplement les choix de texte qui font qu'il y a des... La femme n'existe pas toute seule, elle se confronte au monde, et c'est pour ça qu'il y a, finalement, il y a eu aussi des hommes dans mon spectacle.
Oui, le texte est un homme, d'ailleurs.
En plus, oui, ça, on en reparlera.
Oui, ça. Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, d'ailleurs, de choix d'exclure les hommes au départ. C'est vrai qu'on avait, simplement besoin de préciser notre place, notre langue, et donc on s'est presque... On s'est donné cette chance, disons, sur les deux premières créations de ne travailler qu'avec des comédiennes femmes, mais c'était, en même temps, il y avait des musiciens sur scène, donc je veux dire, ça n'a jamais été sectaire ni sexiste. mais c'est vrai que suivant le propos qu'on veut tenir, ben, c'est clair qu'il faut tout le monde, quoi, il faut réunir tout le monde. Mais c'est vrai que c'est aussi important de donner la place à plusieurs énergies. Dans le spectacle que nous avons monté maintenant, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui entourent le spectacle et qui ont fait des choix, c'est pas au niveau de la scénographie, de la lumière, des costumes, etc. Mais il y a également un musicien homme, Michel Vinch. Je lui ai demandé aussi à lui, j'aurais pu choisir une musicienne pour faire... Mais c'est vrai qu'il m'avait semblé plus juste de mélanger les genres, enfin, dans le sens de oui, il y a toujours deux principes qui doivent coexister.
Mais lui, il a choisi une chanteuse aussi pour qu'on parte sa musique, qui est Christine Chalère. Voilà. Donc, encore une fois, une femme de plus.
Oui. Bon, ça, c'était en lien avec le personnage. Hein. Je lui ai demandé une voix, je lui ai demandé des cordes, des choses comme ça. Et il a fait une composition à partir de certains éléments.
Magnifique aussi, la musique.
Ah oui, tout à fait. Mais c'est important, effectivement, que chacun soit représenté pour ses qualités propres. Hein.
Mais quelque part, vous êtes un peu, avec la compagnie du revoir, à l'image, si je fais une image un peu simpliste, vous m'excuserez, mais un peu du mouvement des femmes. Les femmes aussi ont eu besoin, à un moment donné, de trouver leurs paroles et leurs mots et leur place seules. Et puis après, il fallait, bien sûr, leurs propos, leurs débats nécessitaient la société en entier, et pas elles toutes seules, évidemment.
Oui, c'est vrai.
Mais... Il fallait trouver l'énergie.
Je crois que c'était très important, oui. Et puis surtout, c'est ça, de se dire, mais on peut très bien le faire aussi entre nous. Hein. On peut très bien... on a besoin d'aucun conseil, on a besoin d'aucun paternage, disons, pour monter nos spectacles. Et oui, c'était tout à fait conscient aussi, hein, cette vision-là des choses. Hein. Voilà, c'était pas pour exclure les hommes, mais c'est vrai que c'était important qu'on se consolide aussi entre nous.
Oui, d'ailleurs, VC Dames... c'était ça, c'était un lieu typiquement féminin, donc là il y avait, c'était complètement normal qu'il n'y ait que des femmes.
Oui.
Et ça nous permettait d'explorer justement des figures, des tas de figures différentes, des comportements et tout ça. Et c'était important de passer par là. Ensuite dans Rumeur, il n'y avait que des femmes dans le jeu. Par contre là, moi je sentais déjà la limite. Il manquait une part masculine sur le plateau, dans le jeu, dans le rapport, pour faire rebondir les choses. Ensuite, naturellement, il s'est produit ce qui s'est produit, c'est-à-dire que Anne et la compagnie a rassemblé des hommes aussi pour jouer. Mm-hmm.
Vous êtes dans Remue Ménage, nous sommes en compagnie de Francis Cacal et Anne Bizan de la Compagnie du Revoir en spectacle à Genève au Théâtre de Saint-Gervais avec Tableau d'une exécution. Des textes, on le disait tout à l'heure, Vécédam était un des textes que vous avez, vous, monté. Hein? Je crois que Les femmes et les enfants d'abord aussi, c'est un scénario original aussi, écrit par toi, Anne.
Oui, c'est-à-dire imaginé par moi, travaillé là également en collaboration avec les comédiens au moment des répétitions. Et puis également, il y avait encore un intervenant qui était Joël Pasquier, qui avait fait tout un travail d'adaptation à partir d'un montage de textes d'Eschyle et de Ripide.
Et puis, je suppose que Rumeur était aussi un texte écrit par vous.
Oui, c'est ça, un scénario
général. Et puis, il y a eu des textes d'auteurs. Mm-hmm. Il y a eu le dernier Fassbinder et aujourd'hui Barker. Est-ce que la rencontre avec Howard Barker est une suite logique de tout votre processus ou c'est une rencontre choc que vous avez faite un jour comme ça, au détour d'une expérience théâtrale ou d'un voyage théâtral en Grande-Bretagne
Au détour d'une étagère de librairie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, on lit constamment en fait des pièces de théâtre, et puis tout à coup, on est tombé sur celle-ci. C'est un choc parce qu'en fond, il y avait avec notre univers une rencontre possible, vraiment presque. Évidente, hein, c'est-à-dire la part faite justement à la représentation féminine, le thème abordé. Moi, je l'inscris plutôt dans la continuité, en fait, même si au niveau de la forme, par contre, cette pièce nous oblige à éclater un petit peu notre langage scénique habituel, si je puis dire, parce que je crois qu'on n'en a pas, un qui est figé. Je crois qu'on était tout le temps en train d'essayer de le développer, de lui donner des couleurs différentes. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est en même temps, ça s'inscrit un peu dans la suite, presque un peu logiquement, par rapport à l'esprit aussi, parce que c'est une pièce qui n'est ni un drame ni une comédie, qui a un propos grave et qu'en même temps il y a une forme de burlesque qui s'ajoute au fil des scènes. Et ça, c'est ces deux composantes effectivement qu'on a toujours essayé de développer dans nos créations, ce mélange de genres.
Mais si Fassbinder est bien évidemment un personnage que l'on connaît bien chez nous, Barker ne l'est pas. Je pense, je ne le connaissais pas, mais je crois que je ne dois pas être la seule.
Donc,
y a aussi, est-ce qu'il y a cette envie de faire découvrir aussi un auteur que personne ne connaît ? Parce qu'il est, vous le dites, peu traduit, donc on connaît peu son œuvre en français. Est-ce que les gens lisent si peu des textes dans des langues étrangères, en anglais en l'occurrence ? Est-ce que c'est aussi cette volonté de faire découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas ? Il y a peu d'auteurs de théâtre contemporain qui arrivent jusqu'à nous.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que on a aussi un petit peu plus cherché du côté des non-francophones, hein, parce que On ne peut pas dire qu'on ait une connaissance exhaustive des auteurs contemporains francophones. Hein, mais c'est vrai qu'il y a un type d'arguments et de langage qui se ressasse un peu, je trouve, dans le théâtre français contemporain. Alors c'est vrai que c'est un privilège et c'est très stimulant tout à coup de tomber sur une pièce qu'on sait qu'elle est peu connue, voire pas du tout. C'est très stimulant de se dire on va monter une pièce que personne connaît et on va offrir cette première lecture au public.
Vous nous faites découvrir dans le petit document de presse qui accompagne votre spectacle que les pièces de Barker ont à un moment donné été jouées par une compagnie qui s'est créée que pour ça.
Ouais.
Est-ce que vous imaginez la Wrestling School, c'est wrestling ça, si je me souviens school. Bien, mm-hmm. École de lutte, on traduirait mm-hmm. littéralement. Est-ce que vous imaginez, vous, la compagnie du Revoir, vous mettre au service d'un auteur comme cette compagnie, mm-hmm. par exemple, comme ça?
En tout cas, ce que l'on souhaite, et ce qui est d'ailleurs en chantier actuellement, c'est de travailler en collaboration avec un auteur. Ça, c'est évidemment la très ancienne tradition de shakespearienne, ou même, c'est la même chose chez Molière, quoi, le fait qu'une troupe travaille vraiment en rapport de proximité avec un auteur. Je crois que ça, c'est une des composantes essentielles de la création théâtrale, quoi, et qui s'est perdue. Enfin, qui s'est perdue d'une façon générale, mais c'est vrai que ça se fait quand même encore, ces collaborations. Se dévouer à un seul auteur, ça, je pense pas, très franchement. Je crois qu'on est trop attaché à une certaine liberté pour ça. Mais par contre, là, effectivement, on travaille actuellement en collaboration avec une femme qui s'appelle Hélène Besançon. Et on est en train de travailler justement sur une pièce dont le sujet central est un personnage qui s'appelle Anne-Marie Schwarzenbach. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Tout à fait. Tout à fait.
Voilà. Et
dossier, on a écrit Anne-Marie Schwarzen. Non, dans un article, on a écrit Anne-Marie Schwarzenhof. Je me suis dit, c'est qui celle-là?
Donc ça, c'est la première expérience qu'on va faire de ce type. Et c'est vrai qu'alors ça aussi, c'est une belle aventure.
Allez, viens! Ne sois pas un homme. Il n'y a pas de vérité possible là où sont les hommes.
J'ai pas confiance, vous avez l'œil fou.
Mais arrête de gigoter, sortir d'ici ne t'amènera.
J'ai peur de vous.
Peur de moi? Moi? Mais pourquoi?
Vous voulez me faire du mal?
Jamais.
Vous allez tout ruiner.
Quoi? Quoi?
Ma paix avec la vie.
Écoute, regarde-moi, regarde mon visage. Comment trouves-tu? Est-il honnête, bon, généreux? Est-ce un bon visage?
Ça peut aller.
Mais bien sûr, je connais mon visage. Je l'ai peint des milliers de fois. Je ne suis pas belle, je le sais, mais je ne voudrais pas de la beauté.
Bien sûr que non.
Je n'ai pas confiance en la beauté. C'est une invention et un mensonge. Fais confiance à mon visage. C'est celui d'une femme qui a vécu un peu. Oh, je n'ai pas été coupée en deux comme toi, mais j'ai pris quelques coups moi aussi. Et je peux te dire que je n'ai jamais été en paix avec la vie. Et que je ne le serai jamais, parce que cela n'existe pas. Et ceux qui le prétendent ont endormi leur conscience et ankylosé leur souffrance avec de piteux rituels. Comme ton boniment. Mais regarde-toi. Qui t'a fait cela, Brodo? Et pourquoi? Je vais peindre ton supplice pour toutes ces foules qui rient de ta misérable apparence. Allons, allons. Nous devons être braves.
Cauchemar.
Oui!
Sous les draps, au fond des draps, des bras et des jambes.
Oui, oui, oui!
Des eaux qui marchent, l'air est rempli d'eau qui craque et qui se rompt, de rames qui volent, les eaux qui courent.
Continue!
Et la chair humaine qui tombe de partout. Il pleut de la viande humaine, des morceaux de viande qui dansent tout autour. Dans mon...
Ah! Je vais tout peindre. Toutes tes terreurs et leur pourquoi, d'accord?
S'il vous plaît, rendez-moi mon petit bout de...
Pourquoi cette bataille?
Rendez-moi!
Pourquoi?
Pour la liberté, bien sûr.
La liberté.
Pour la gloire, bien sûr.
La gloire.
Pour l'honneur de la grandissime République. Et pour l'humiliation du turc païen.
Oh, regardez, la flèche bouge. Elle tourne et tourne comme un... manège en folie.
Non, elle ne peut pas bouger.
Avec une petite plume, elle tourne.
Non!
Merveilleux homme qui s'agrippe à des vérités obscures.
Signora, mais que voulez-vous de moi?
La vérité, c'est tout. Juste la vérité. Maintenant, sors.
Vous êtes mauvaise. Vous êtes...
Mon carnet à croquis.
Où est passé mon carnet à croquis? Déterré ainsi.
Je l'avais posé quelque part et puis...
L'horreur de ma...
qui menace la notion même de compagnie. Est-ce que c'est les problèmes d'argent qui fait que c'est difficile de monter des spectacles ou c'est plutôt les débats intérieurs comme vous aviez évoqué de ce qui vous est arrivé à vous en tant que compagnie?
Non, ce qui menace, c'est le découragement de face à l'éternel recommencement de la course d'obstacles pour pouvoir monter un projet financièrement.
Ouais, chaque fois, c'est comme le jeu de loi. Chaque fois, on reprend l'échelle, paf, on passe par
oui,
en bas.
Exactement.
C'est terrifiant. Quoi.
Et
c'est...
on doit reprouver qu'on voilà. fait du bon travail.
Voilà.
Il
n'y
a
oui.
pas d'accumulation, d'acquis,
non.
de
non.
confiance.
Absolument non. pas. Non, chaque fois, on l'espère. Hein. Chaque fois, on se dit, ah, mais cette fois-ci, quand même, ça sera plus facile.
Chaque fois, on y croit. Et...
on aura quand même un peu plus d'argent. On va quand même pouvoir consacrer un peu plus de budget pour un décor peut-être un peu plus, etc. Et au fond, non, on est toujours en train de racler les fonds de tiroir pour que ça tienne debout. Alors, bon, c'est vrai, on peut dire, parfois, certaines contraintes stimulent la création et l'ingéniosité. Mais à force, disons, ça sera plus le cas. Ça sera le découragement, ça sera peut-être même un peu d'amertume. On en est loin, heureusement, mais disons, c'est un peu l'épée de Damoclès, c'est ça.
Vous pouvez difficilement nous dire que vous êtes allé laisser tomber vos bras de... Parce que nous, maintenant, on y croit dur comme fer avec ce que vous proposez. Hein. On se dit non, maintenant, avec Galaxia dans les yeux, on ne peut plus faire autrement que se dire faut continuer, envers et contre tout. Hein. Alors, nous allons bien sûr maintenant aborder plus précisément le spectacle lui-même. Alors, au cœur de ce texte incroyable de Howard Barker, un personnage féminin, magistral, qui est Galaxia, justement, avec toutes sortes de prénoms absolument insensés pour ces personnages. On les découvre quand on lit la distribution, parce qu'ils se prénomment pas tellement, à part Galaxia et quelques personnages autour d'elle, qu'elle nomme, mais certains, on les découvre pas. Est-ce qu'on peut peut-être en faire... la liste, hein, comme ça, sous les yeux. Je vois, par exemple, l'amant de Francisca alias Galaxia, donc que ce soit bien clair, s'appelle
Carpeta,
qui peut très bien être comparé comme un tapis sur lequel carpette. Elle se marche, s'adoucit la vie, etc. La carpette. Prodo, par contre, moi, ça ne m'inspire rien. Est-ce que ça veut dire...
Moi, ça m'inspire l'idée du preux chevalier.
Ah, voilà, Prodo ouais, est donc ouais. le rescapé de l'incroyable bataille qu'est censée représenter la peintre Galaxia pour le compte donc, de la République sérénissime de Venise, la bataille de Lépante qui a mis en affrontement Vénitiens et Turcs. Et les Vénitiens ont soi-disant gagné. Mais effectivement, Galaxia ne voit pas du tout de cet œil-là. Pour elle, c'est un massacre où tout le monde y a laissé des plumes épouvantables. Alors effectivement, Prodo est celui qui est un survivant avec une flèche qui est maintenue dans sa tête, plantée à Déternam, ses tripes à l'air, sa main, etc. On découvre l'horreur de la guerre par lui, d'une certaine façon. Et puis, il y a Urgentino, qui est le nom du doge. Alors lui, brillant aussi et très multiples facettes, ces multiples facettes du pouvoir politique dont cherche à parler Howard Barker. Et puis il y a prenons encore les personnages de pouvoir. Je ne sais pas comment on prononce, Soffici ou Sofficile.
Soffici,
oui, l'italien d'aujourd'hui. Mm-hmm. L'amiral, celui qui a fait la guerre et qui regarde du
chef
haut de ses
guerre.
Grands yeux. Oui. Et puis, ostensible, qui est, est-ce que vous devinerez, chers auditrices et auditeurs,
le cardinal.
Dans son violet, son pourpre d'église, qui se suffit bien à lui-même et qui se montre beaucoup, effectivement. Et puis alors, oh, bizarrerie étrange, les noms des filles de Galaxia.
Supporta et Demencia.
Mm-hmm. Qu'est-ce à dire, Galaxia? Ces filles sont si étranges dans votre compagnie qu'elles portent des noms pareils.
Eh bien, ma foi, Supporta est un peintre d'ornementation. Très doué, mais d'ornementation.
On dit un peintre ?
Oui, un peintre. Ah on dit une artiste, un peintre.
Non, mais... On ne dira pas une peintre.
C'est marrant parce que avant-hier soir, il y avait une femme peintre qui était au spectacle, qui a adoré, qui a dit c'est tout à fait comme ça que ça se passe, qui a évidemment aussi eu des commandes avec l'État ici à Genève. Et elle me disait, on dit un peintre. On dit oui. Une artiste. Alors elle disait ça. Mm-hmm. Dans le texte, on dit je suis un peintre, considérez-moi comme un peintre. Donc mm-hmm. Je dis un peintre. Mais. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qui se dit véritablement.
Ça, c'est une question de choix, à mon avis. Hein. On peut très bien dire une peintre. On dit même une peintresse, j'ai entendu ça.
Oui, là, c'est déjà plus dur.
Mais ouais, ça dépend. C'est effectivement, bon, un peintre, est-ce qu'on garde en fait la fonction simplement au masculin et puis donc on s'identifie à cette fonction, c'est, voilà. Et puis bon, mais enfin, ça ouvre la grande question de la féminisation.
Oui,
donc,
ah oui, voilà.
Dans le texte, bon, c'est difficile à dire puisque
en anglais, pas de
voilà.
Ouais.
Voilà. Donc c'est le choix du traducteur d'avoir parfois mis un, parfois même une. Et d'ailleurs, les comédiens, je regarde des fois le texte, improvisent un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que des fois c'est un artiste et des fois c'est une artiste.